Bonjour Yves Marignac.
Bonjour.
Il y a aujourd'hui tout juste 10 ans, jour pour jour, le monde entier assistait effrayé à la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. Qu'est-ce que cet accident nous a appris sur le nucléaire ?
Il nous a appris, ou en tout cas renforcé dans la conviction pour ceux qui le pensaient déjà, que les réacteurs nucléaires, les installations nucléaires plus largement d'ailleurs, sont vulnérables. Que, pour reprendre les termes du directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'époque, il faut imaginer l'inimaginable et que voilà des événements auxquels on n'a pas forcément pensé peuvent créer sur une installation des situations extrêmes qui peuvent amener au type de conséquences catastrophiques que l'on a vu à Fukushima. Et donc, il nous a enseigné que les installations nucléaires telles qu'elles avaient été conçues jusque-là ne sont pas suffisamment robustes pour assurer les exigences de sûreté telles qu'on les pose aujourd'hui.
Le bilan humain de cette catastrophe de Fukushima reste pour l'instant en fait assez flou. On parle de 1700 personnes décédées directement des radiations, mais certains disent que c'est très largement sous-estimé.
Alors certains disent que c'est surestimé, d'autres que c'est sous-estimé, mais plus fondamentalement, je crois qu'on se trompe en essayant de réduire la lecture des conséquences humaines d'une catastrophe comme celle-là à une mortalité liée aux radiations. La réalité concrète pour les populations concernées d'un accident comme Fukushima ou comme Tchernobyl auparavant, c'est simplement le fait d'être confronté du jour au lendemain et irrémédiablement à un changement complet. Soit elles sont forcées de partir et de reconstruire une vie ailleurs dans des conditions forcément difficiles, soit elles restent sur place et reconstruisent une vie dans un environnement non seulement naturel, mais social, économique, profondément dégradé et avec une préoccupation constante vis-à-vis de leur risque d'exposition. Et on ne parle pas de quelques personnes, là on parle de quelques dizaines à quelques centaines de milliers de personnes. Et c'est ça la réalité profonde de l'accident nucléaire et c'est ça qui, évidemment, en fait la nature catastrophique.
L'Allemagne avait très rapidement, après l'accident, décidé de renoncer au nucléaire. Mais c'est une exception. En fait, aujourd'hui, il y a plutôt plus de centrales nucléaires dans le monde qu'avant la catastrophe.
Alors non, il y a en réalité plutôt une stagnation du parc nucléaire dans le monde qui avait d'ailleurs commencé avant Fukushima et qui est plutôt dictée sur le fond par des raisons économiques de non-compétitivité croissante des installations nucléaires par rapport au progrès que connaissent les énergies renouvelables. L'Allemagne n'est pas du tout le seul pays à avoir pris la décision de tourner le dos au nucléaire, même si c'est celle qui l'a fait de la manière la plus visible et la plus assumée politiquement et la plus rapide aussi après la catastrophe. La Belgique a également décidé de sortir du nucléaire. L'Espagne ou la Suisse, par des décisions de ne pas reconstruire de réacteurs, ont de fait décidé également d'en sortir. Et puis surtout, il y a une très grande majorité de pays dans le monde qui n'utilisent pas le nucléaire aujourd'hui, puisque 31 ou 32 pays seulement ont recours à cette énergie et peu de nouveaux candidats se présentent, notamment pour les raisons de non-compétitivité que j'évoquais précédemment.
Est-ce que la France, puisque la France tire une part importante de son énergie du nucléaire, est-ce qu'elle pourrait se passer totalement du nucléaire ?
Alors la France est effectivement exception dans le monde dans son niveau de recours au nucléaire qui représente encore aujourd'hui pratiquement 70% de son électricité. Et on a souvent en France une vision très biaisée des débats sur le nucléaire dans le monde, puisque dans le monde, le nucléaire, c'est moins de 10%, c'est pardon, 10% de l'électricité et c'est le moins de 3% de l'ensemble de l'énergie consommée, donc c'est très marginal. Cette spécificité crée évidemment une situation particulière du point de vue de la possibilité de sortir du nucléaire et d'aller vers un système électrique décarboné basé uniquement sur les renouvelables. Ça n'empêche que c'est possible en France comme ailleurs et c'est la tendance que l'on observe aujourd'hui de plus en plus au niveau mondial. Les capacités renouvelables, photovoltaïques, éoliennes installées dans le monde sont très largement supérieures aux nouvelles capacités nucléaires qui, elles, ne permettent pas de renouveler le parc vieillissant. C'est possible en France, ça prend nécessairement plus de temps et c'est un programme de plus grande ampleur, mais on peut tout à fait aujourd'hui, à un horizon comme 2050, se projeter dans une trajectoire de fermeture de notre parc nucléaire et de remplacement progressif par les énergies renouvelables électriques, en n'oubliant pas, parce que c'est crucial d'une manière générale lorsqu'on parle d'énergie, d'appliquer pour pouvoir mettre en œuvre un tel programme des actions de maîtrise de la consommation d'énergie et d'électricité pour voilà, maîtriser ces transformations.
Mais pour se passer du nucléaire, combien de milliers ou de dizaines de milliers d'éoliennes, combien d'hectares de panneaux photovoltaïques faudrait-il, compte tenu de la part justement que représente aujourd'hui le nucléaire dans la production énergétique française ?
Alors la réponse dépend très fortement de plusieurs facteurs qui sont d'abord le niveau de demande en électricité et également du niveau de foisonnement entre les différentes solutions d'énergie renouvelable. Mais par exemple, un scénario comme celui de l'association Megawatt qui dessine une transition vers le 100% renouvelable à l'horizon 2050, c'est moins de 20 000 éoliennes sur le territoire national, avec aussi des éoliennes offshore, bien sûr,
sur mer. Ouais.
C'est moins de 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques par personne. Donc, si vous prenez en compte l'ensemble des friches industrielles, l'ensemble des possibilités sur les toits, les ombrières de parking, la possibilité aussi de mêler, de faire coexister des centrales photovoltaïques et certaines activités agricoles. On est loin avec ce type de vision de saturer le potentiel qui est très important en France de production par les énergies renouvelables. Donc il y a pas aujourd'hui de limite identifiée d'un point de vue physique au déploiement des renouvelables par rapport à la fourniture de cette électricité, mais comme je l'évoquais, même si leur soutenabilité est intrinsèquement plus importante que celle du nucléaire, les renouvelables ne sont pas sans impact sur le paysage, sur l'empreinte au sol, sur les matériaux, et donc même dans une perspective qui va vers le 100% renouvelable, cette notion de maîtrise de la consommation maîtrise, pour maîtriser les impacts reste fondamentale.
Merci Yves Marignac, merci, bonne journée.